vient d'enlever le masque. Alors, ce matin, j'avais à cœur de parler de la divinité de Christ. Alors, on ne va pas faire une étude biblique parce qu'il faudrait des heures pour parler de ça, pour l'étudier à fond, profondément. Donc, on va faire un survol de cette question-là. D'abord, dans un premier temps, au niveau biblique, on va voir quelques versets, quelques aspects. Puis après, on aura quelques questions, quelques interrogations par rapport à cela. Alors, dans l'Écriture, en tout cas dans le Nouveau Testament, il y a au moins 7 passages qui explicitent que Christ est Dieu. Il y a un mot qui est souvent utilisé, c'est le mot « théos ». Et d'habitude, ce mot est plutôt utilisé pour parler du Dieu créateur, du Père, plutôt que de Christ. Néanmoins, il y a ces passages où il est question de théos pour Christ. On va en mettre quelques-uns. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Théos, et la parole était Théos. Et vous savez que la parole, c'était Christ. Dans Jean 1, 18, on va faire un petit peu comme ça, quelques versets dans un premier temps. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Il y a aussi Jean 20, verset 28. Je ne les ai pas tous mis, Patricia, parce que ça aurait été trop long. Il y a l'histoire avec Thomas. Vous savez, Thomas, c'est celui qui a besoin de toucher et de voir pour croire. Et quand il voit et il rencontre Christ ressuscité, à ce moment-là, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Dans Romains 9, les versets 1 à 5, et j'en lis juste un, « Et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement ». Il est question de Christ comme Dieu. Dans Tite 2 au verset 13, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. » Hébreux 1, 8, et là, on a la retranscription du psaume 45 au verset 7. Mais au Fils, il est dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Et dans 2 Pierre 1, 1, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et nous pouvons aussi parler d'un passage de l'Ancien Testament, mais qui est relaté dans le Nouveau. C'est la prophétie d'Ésaïe, le chapitre 9 et au verset 5. Alors, c'est pas tout à fait ça. Est-ce que je me suis trompée, Ésaïe? Ah oui, ça dépend des versions. Il y a des versets qui sont différents. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et c'était l'annonce de Jésus-Christ, de la venue de Jésus, quelques 400-500 ans avant sa venue. Il y a aussi dans Matthieu 16, 13, un verset intéressant. Est-ce que je l'ai mis? Voilà. Il est dit, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et en fait, dans ce passage, Jésus lui-même parle de quelque chose qui ne pouvait pas être étranger aux Juifs, puisque c'est un passage du prophète Daniel, au chapitre 7, les versets 13 et 14, une des visions de Daniel. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme, il s'avança vers l'Ancien des Jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le serviront. Et en fait, quand Jésus dit « Qui dit-on que je suis le Fils de l'homme ?», les Juifs ne pouvaient pas ne pas savoir de quel Fils d'homme il était question. Il était question de celui qui était dans cette vision et qui allait recevoir toutes les royautés et toutes les dominations. Et par là, il disait à demi-mot toujours, est-ce que vous croyez que je suis Dieu? Un autre aspect pour dire que Jésus est Dieu, il a utilisé le mot Seigneur ou Kurios. Alors c'est vrai que dans la culture de l'époque, on parlait parfois à des personnes en disant « Seigneur ». Il y avait des esclaves à cette époque-là. Il y en a malheureusement encore aujourd'hui, mais beaucoup plus cachés. Et on disait volontiers « Seigneur » à quelqu'un. Ça faisait partie de la tradition. C'est comme si aujourd'hui, avec beaucoup de révérence, on dirait « Monsieur ». Hein? Dans l'Ancien Testament, le tétragramme JHVH est traduit par 6814 fois par « éternel » ou « seigneur » ou en grec le mot « kurios ». Donc il est difficile d'imaginer que dans les temps de Jésus, cette référence au Créateur du ciel et de la terre, le Dieu omnipotent, n'était pas comprise, en l'occurrence pour le Christ lui-même. Dans Luc 2, au verset 11, lorsque les anges se présentent aux bergers, « Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, le Kurios. » Dans Luc 1, au verset 43, quand Élisabeth reçoit Marie et que toutes les deux sont enceintes, Élisabeth prophétise et elle dit « La mère de mon Seigneur vient me voir. » Dans Matthieu 3:3, il est dit « Préparez le chemin pour le Seigneur. » Et c'est un passage d'Ésaïe 40 au verset 3. Matthieu 22:44, « Dieu le Père a dit à Dieu le Fils, « Viens régner à ma droite. » Et entre parenthèses, il est mis « le Seigneur de David, le Kurios de David. » Dans Hébreux 1, 10 à 12, il est question de Christ comme Créateur éternel. Dans Apocalypse 19, au verset 6, il est question de Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Apocalypse 1, 8 nous dit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. » Là, on a les deux références. On peut prendre un troisième aspect pour dire comment Jésus s'est présenté comme Dieu. Dans Jean 8, au verset 57, c'est un passage où Jésus dit qu'il a vu Abraham. Abraham, c'est des siècles auparavant. Comment pouvait-il être avec Abraham? Et les Juifs lui disent, mais tu n'as pas 50 ans et tu aurais vu Abraham. Enfin, ça ne va pas là-haut. Et Jésus de répondre, alors je vais reprendre le texte parce que je ne l'ai pas marqué dans le détail ici. J'aurai plus Jean 8. Au verset 58. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Et en fait, le je suis, ego am I, était connu de tout le monde juif comme celui qui se présente comme Dieu. C'est comme ça que Dieu s'est présenté à Moïse dans le désert. « Je suis celui qui suis. » Et en fait, quand Jésus se présente, il ne dit pas « Je suis Dieu. Ouais, faut que vous croyez que je sois Dieu. » Il prend des références importantes pour les Juifs. Parce que Dieu, Christ, n'est pas en dehors de toute la tradition et l'histoire juive. Donc, quand Jésus dit « Je suis », il rappelle celui qui était avec Moïse, avec Abraham, qui était au commencement. Et les Juifs, à ce moment-là, savaient qu'il était Dieu. Dans Exode 3, 14, il est dit « Je suis celui qui suis ». Celui qui existe éternellement. J'aime beaucoup dire en anglais, une forme verbale en anglais, qui est le présent continu. On n'a pas ça en français, mais en anglais, j'aime beaucoup parce que c'est depuis toujours et c'est un présent continu qui ne s'arrête jamais. Dans Apocalypse, on a déjà lu ce passage. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est aussi je suis, le je suis. Dans Jean 1, au verset 14, il est dit « Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. » La notion de « je suis » est tellement importante quand Jésus dit « je suis le bon berger, je suis la vérité et la vie et le chemin. » Quand il dit « je suis », il fait toujours référence à ce titre, à cette réalité qu'il est Dieu. Il y a tellement encore d'autres aspects qu'on pourrait étudier, mais ce n'est pas ni le temps ni l'endroit. On va juste évoquer le fait qu'il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il est tout-puissant. Dans Matthieu 14, 19, on se rend compte qu'il a le pouvoir sur les éléments, sur la tempête. Il est omniscient. Dans Jean 16, 30, les disciples, ils disent, nous savons que tu sais tout. Je crois qu'on n'arrive pas à imaginer ce que ça représente. Il est omniprésent. Matthieu 28, 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a l'autorité avec un grand A, hein, le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est immortel, il est éternel, il n'a pas de fin, il n'a pas de début, il existe de tout temps. Il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Dans Jean 10, au verset 17 et 18, il dit « Personne ne me prend la vie ». Jésus-Christ n'est pas mort à la croix de mort naturelle. Il était sans péché. Il est mort parce qu'il a donné sa vie. Il avait le pouvoir de la donner et de la reprendre. Et c'est pourquoi il est ressuscité des morts. Il n'était pas un homme comme nous. Nous, la mort fait partie de notre héritage et de notre vie à cause du péché. Mais lui ne l'était pas. Il n'avait pas besoin de mourir. Mais il a choisi d'aller mourir à notre place, de livrer sa vie pour nous. Et on peut dire aussi qu'il est digne d'être adoré. Il y a beaucoup de passages dans Apocalypse 19, dans Hébreux 1, 6, Apocalypse 5, 13. On ne va pas les lire, ils sont merveilleux, mais ça prendrait beaucoup trop de temps. On pourrait encore beaucoup parler de la divinité de Christ. Mais je me disais, pourquoi est-ce que j'avais à cœur de parler de cela? Ce qui m'a interpellée, ça a été le témoignage d'une jeune femme indienne qui a fait le choix de son Dieu, de Jésus-Christ. C'est vrai que Jésus, comme homme, en principe, on ne le conteste pas trop. Historiquement parlant, c'est répertorié. On lui concède qu'il était un grand prophète. Il l'est d'ailleurs pour certains. Il n'est qu'un prophète pour certains. Pour d'autres, il a été un grand philosophe. Pour d'autres encore, un grand communiste. En fait, Jésus est-il Dieu ? C'est une question pas forcément simple à se poser. Parce que s'il est Dieu, ça change tout. S'il est Dieu, ça bouscule le monde. Cette femme indienne a choisi son Dieu. En règle générale, on choisit le Dieu de l'endroit où on est et où on vit, où on grandit. On choisit le Dieu de notre tradition, de notre culture. Et c'est vrai qu'ici, en Europe, notre tradition, c'est une tradition judéo-chrétienne. Mais pour cette femme indienne, c'était tout autre. En Inde, il y a des milliers de dieux. Qu'est-ce qui fait qu'elle a choisi Christ comme Dieu? Souvent, on entend cette phrase quand on discute avec des gens d'autres confessions, d'autres religions, mais dans le fond, on a tous le même Dieu. Et comme ça, on s'entend bien tous ensemble. Hein? On arrive dans une forme de syncrétisme. On a tous le même Dieu. Et moi, je leur dis non. Comment ça? Mais si Christ est Dieu, on n'a pas tous le même Dieu. Et ça surprend les gens. C'est vrai que en général, on a un consensus sur l'idée qu'il y a un Dieu créateur, une main qui est venue mettre toute cette chose extraordinaire qu'est la Terre et l'univers et qu'on découvre de plus en plus. Là, on est en général, on a à peu près la même vision, mais comment ce Dieu créateur s'est-il révélé? Et c'est là qu'il y a des différences qui s'installent. Et c'est vrai que dire que Christ est Dieu choque les gens et fait de nous des gens sectaires, intégristes. Et on peut lire le Jean 15, 19, je ne sais pas si je l'ai marqué sur la liste. Je vais vous le lire. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Cette femme indienne, elle paye le prix fort pour avoir fait le choix de choisir Christ comme Dieu. Et c'est vrai que nous aussi, dans notre existence, même si notre culture est une culture judéo-chrétienne, je crois qu'il y a un moment donné où on n'échappe pas au fait de se décider pour Christ, Christ comme Dieu. Il est mon Dieu. Affirmer que Christ est Dieu, c'est aussi affirmer qu'il est, par sa nature humaine, juif. Dieu s'est révélé au monde au travers du peuple d'Israël dans toute son histoire. Et il s'est révélé à ce peuple et au monde comme le seul vrai Dieu. Oui, aujourd'hui, écoute de dire que le seul vrai Dieu est juif, ou l'était dans son humanité, et que la révélation du seul vrai Dieu s'est faite au travers du peuple d'Israël jusqu'à la venue de Jésus. Beaucoup d'Israélites, pour l'instant, ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, comme un des leurs, tout comme beaucoup de personnes des nations ne le reconnaissent pas non plus comme Dieu. Mais qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Ou je fais le choix de l'accepter, ou si je ne l'accepte pas, c'est mon choix, c'est ma liberté, mais ça ne change en rien que le seul vrai Dieu est celui qui s'est révélé au travers du peuple d'Israël et de Jésus-Christ comme Dieu. J'ai beaucoup aimé le passage d'Éphésiens 2, des versets 11 à 22. Je crois que je l'ai mis dans la liste. Souvenez donc de ceci. Autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Et en fait, dans une autre traduction, il y avait mis la haine. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un mot qui est tellement d'actualité. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps, par sa croix, en faisant mourir par elle la haine. Et je trouve ce texte tellement extraordinaire parce que c'est vrai qu'il y a la nation juive, il y a les autres peuples, mais en Christ, nous sommes réconciliés, nous ne faisons plus qu'un. La visibilité se fait, je ne vais pas lire les textes, mais par l'Église qui est son corps, avec un grand E, pas l'Église locale uniquement, mais avec un grand E. Et il y a ce mur de haine qui a été brisé. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on retrouve cette prophétie d'Ésaïe qui annonçait, qui faisait de lui le prince de la paix. Un prince de paix. Affirmer que Christ est Dieu, c'est accepter de lui rendre un culte. C'est une notion que personnellement j'ai beaucoup de peine à réaliser parce que ma culture réformée était loin du culte. Mais je sais que beaucoup de gens ont des statues, ont des bougies, ont des espaces chez eux ou dans des temples pour rendre un culte. Et cette notion-là, elle est beaucoup plus forte dans plein de pays. Rendre un culte à Jésus, c'est renoncer à rendre un culte à tous les autres. Rendre un culte à un autre que Christ, ça s'appelle de l'idolâtrie. Dans certains pays, il existe des milliers de dieux que l'on vénère, que l'on adore. Dans d'autres pays, c'est un dictateur qui devient Dieu. Dans d'autres pays, on nous impose le Dieu qu'il faut adorer et on n'a aucun choix d'en choisir un autre. En France, c'est l'effet balancier. Si on pouvait gommer le mot « Dieu » du pays, ce serait bien. Mais ça n'est pas possible. Et puis, dans notre Europe dite post-chrétienne, n'y a-t-il pas d'autres dieux qui se sont présentés à nous, comme le matérialisme, comme l'argent, toutes les idéologies que l'on peut avoir au milieu de nous et auxquelles on rend allègrement un culte. Mais je crois que le plus grand Dieu est le plus sournois et le plus caché qui existe. C'est moi. C'est mon ego. Est-ce que c'est bien d'avoir un ego? Je crois que c'est bien de pouvoir dire « je suis dans mon identité, je suis parce que Dieu m'a créé tel que je suis et c'est une bonne chose ». C'est quand le « je suis » prend la place de Dieu qu'il y a un souci. Quand le « moi » est sur le trône de ma vie et non pas Jésus-Christ. Alors, si Christ est Dieu, où est-il ? est-il sur le trône de votre vie? Ou lui accordez-vous un pourcentage de trône sur votre vie? Il est digne d'avoir toute la place et que nous puissions dire comme lui au jardin de Gethsémané, quand il y avait un prix à payer, non pas ma volonté, mais la tienne. J'ai beaucoup de chagrin dans mon cœur après des décennies de vie avec Dieu, de voir à quel point ce sujet-là est crucial dans la vie des chrétiens. Parce que je crois que c'est le Dieu le plus difficile auquel il faut renoncer. Renoncer à moi. Ça ne veut pas dire que je n'existe plus. Mais j'estime que sa volonté est bien meilleure que la mienne. Et par amour pour lui, je fais le choix de lui donner toute ma vie. Et je vous assure que c'est le choix le plus extraordinaire qu'on puisse faire. Parce qu'en lui donnant notre vie, on ne perd rien. On gagne tout. C'est ça que les gens, ou qu'on a de la peine à comprendre. Le temps passe, je voudrais juste encore dire que si quelqu'un doute de la divinité de Jésus, dans Jacques 2, 19, on peut peut-être mettre ce dernier verset. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Croyez-moi, si les êtres humains doutent de la divinité de Christ, eux, ils n'ont aucune raison de douter, parce que Christ a vaincu à la croix. Un jour, j'étais pas bien du tout dans un chemin de guérison, et j'étais tellement mal, je pleurais beaucoup, je suis allée m'asseoir au pied de mon lit, et je ne sais pas ce qui s'est trop bien passé. Je me suis endormie, j'ai fait un songe. Et là, je me suis vue en train de descendre des escaliers dans une maison baignée de lumière, extraordinaire, enfin, vraiment belle. Et il y avait une voûte. Et dans le séjour qui était là, je pouvais voir, il y avait deux dames bien habillées, très frivoles, une avec un chapeau qui disait: oh, mais tu te rends compte, on doit quitter cette maison. Mais pourquoi on doit quitter cette maison? Et il y a une voix derrière moi, puissante, parce que le propriétaire vous l'ordonne. Et ils n'ont pas pu rester. Même s'il a fallu attendre une semaine, parce qu'ils sont têtus. J'étais vraiment fatiguée, mais au bout d'une semaine, j'ai dit, mais Seigneur, je ne vais pas pouvoir continuer à être en confrontation comme ça. Et je me souviens, en rentrant de nos vacances dans la voiture du côté de Clermont-Ferrand, vous voyez, c'est très clair, en une seconde, ça a été fini. Les démons ne tiennent pas devant Jésus-Christ, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Et même si vous ou le monde doute ou ne croit pas, je peux vous assurer qu'ils savent très bien à qui ils ont affaire. Mais je pense que notre conviction de la divinité de Christ, elle ne doit pas venir de cela. Elle doit venir pour qui il est lui. Et c'est ça, une fois qu'on l'a au fond de notre cœur, qui est quelque chose d'extraordinaire. Même si c'est vrai, il y a un prix à payer. On le sait forcément dans nos pays, pour l'instant ça va encore, mais dans beaucoup d'endroits, c'est le prix de sa vie pour dire que Christ est Dieu et que c'est à lui que je veux rendre un culte, parce qu'il en est digne. Amen.